Bienvenue à U au courant, un balado informatif, inspirant et divertissant, produit par l'Université d'Ottawa. Bonjour, je suis Gwen Madiba, animatrice de l'émission et fière détentrice de deux diplômes de la Faculté des sciences sociales. Et je suis aussi présidente de la Fondation Equal Chance. Le but du Au courant est de vous faire connaître des chercheurs, chercheuses et diplômés à l'avant-garde de leur domaine et d'avoir avec eux des discussions stimulantes sur les sujets du moment. La troisième saison de U au courant se concentrera sur l'industrie du divertissement avec des conversations sur le cinéma, la musique, la télé-réalité, les tendances technologiques et plus encore. De Montréal à Toronto, en passant par la Californie et au-delà, nous parlerons à des diplômés qui sont au cœur de l'industrie du spectacle. Notre invitée d'aujourd'hui, Tania Lapointe, est une diplômée en communication et lettres françaises. Elle est productrice exécutive sur Dune, réalisé par Denis Villeneuve, avec qui elle a également travaillé sur Arrival et Blade Runner 2049. Elle est la cofondatrice des productions Sur le Toit et a produit et réalisé La Fortune en papier, qui a gagné le prix du public au Whistler Film Festival en 2020. Tania a également écrit plusieurs livres en français et en anglais, dont The Art and Soul of Dune. La sortie de son prochain livre, The Art and Science of Arrival, est prévue pour le début de l'année 2022. Alors Tania, merci de nous rejoindre aujourd'hui de Montréal. Alors pour commencer la conversation d'aujourd'hui, j'ai une question un peu philosophique pour vous en tant que réalisatrice. Qu'est-ce que le divertissement signifie pour vous?
Ben, c'est une excellente question. Puis je pense que quand j'étais enfant, le divertissement, c'était tout ce qui me permettait de m'évader de mon quotidien. J'ai regardé beaucoup de télévision, trop selon mes parents, qui me disaient d'aller jouer à l'extérieur avec mes amis. Mais je pense que le divertissement a ouvert mes horizons, nourri mon imaginaire. Puis en grandissant, j'ai développé mes goûts pour d'autres types de divertissement, donc pas seulement la télévision, évidemment. Puis en fait, divertissement, c'est pour moi, c'est un terme très large qui englobe beaucoup de choses. C'est autant la télévision, le cinéma, aller voir des sports, c'est du divertissement, la lecture. Mais pour moi, le divertissement, au fur et à mesure que la vie a évolué, c'est recentré vers à la fois la télévision et le cinéma. C'était de raconter des histoires. Et ce qui est formidable, c'est que justement à l'Université d'Ottawa, j'ai étudié en communication, en lettres françaises, mais à chaque occasion que je pouvais, quand il y avait un cours qui était offert en lien avec le cinéma, je prenais ce cours-là. Et je me suis rendu compte qu'un divertissement, c'est pas seulement quelque chose qui nous permet de nous évader, mais quelque chose qui peut être aussi une source de réflexion sur notre société, une source d'analyse intellectuelle. Et donc, pour moi, le divertissement, oui, ça peut être justement cette chose qu'on se dit, ah, je mets mon cerveau à off, comme on peut souvent se dire, ou un divertissement qui nous ouvre vers d'autres réalités, vers d'autres mondes. C'est un peu philosophique, ma réponse, comme vous avez dit, mais qui ouvre le cœur aussi. Donc, ça peut avoir plusieurs facettes et plusieurs avantages.
Mais merci de partager ça et puis de partager votre parcours aussi à l'université, parce que ça fait toujours plaisir d'entendre que vous avez pris ces cours-là en cinéma à l'université. Je suis sûre qu'ils ont pu quand même vous servir, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Je garde de très bons souvenirs. Puis j'ai eu des professeurs mémorables, Gary Evans, qui avait écrit un livre sur l'Office national du film. Puis j'étais très impressionnée que quelqu'un puisse écrire un tel ouvrage. Puis c'est devenu un peu mon mentor. Et même si d'abord et avant tout, je suis pas allée en cinéma, mais d'abord en télévision, je pense que c'est pas un hasard si aujourd'hui je travaille dans le monde du cinéma.
Absolument. Et récemment, vous avez effectué une tournée de promotion internationale pour Dune, le film hollywoodien qui a pris l'affiche le 22 octobre. Ces dernières années, vous avez également fait la promotion de vos deux premiers documentaires. Après votre parcours universitaire en communication à l'Université d'Ottawa et 15 ans à Radio-Canada, RDI et CBC, quel effet cela vous fait-il d'être passé du rôle d'intervieweur à celui d'interviewé?
Bien, je dois dire que je suis reconnaissante que mon parcours m'ait permis d'apprendre à être de votre côté, en fait, du micro, d'être intervieweuse, parce que quand on comprend ce qu'on cherche, quand on pose des questions, ben on est mieux outillé pour répondre aux questions. Donc, moi, ce que j'ai compris dans mon parcours, j'ai interviewé des milliers de personnes, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, c'était une quête d'authenticité et aussi d'enthousiasme selon le sujet, mais ces 15 années-là m'ont préparé à aujourd'hui parler de mes propres projets. Et je pense que c'est plus facile pour moi de parler de mes projets que de poser des questions. Parce que quand on pose des questions, on ne connaît pas forcément toutes les réponses. Donc, on est dans une quête. Alors que ben, quand vous me posez des questions sur mes projets, je sais que je possède toutes les réponses. Donc, il y a un certain soulagement, je vous dirais, à répondre aux questions plutôt que les poser.
En parlant de vos projets, parlons d'abord de votre premier long métrage documentaire en français que vous avez réalisé, La Fortune en papier, qui a obtenu le prix du public lors de sa première mondiale au Festival international du film de Whistler en 2020. Ce documentaire sur Claude Lafortune, l'animateur d'émissions de télévision pour enfants, explore la marque qu'il a laissée dans notre culture populaire, un peu comme Fred Rogers aux États-Unis et Mr. Dress-Up de la CBC. Alors, on y découvre son talent extraordinaire à créer des personnages et des décors utilisant uniquement du papier, des ciseaux et de la colle. Claude Lafortune est malheureusement décédé au printemps 2020, avant la sortie de votre film, et j'ai été très émue par l'hommage que vous avez partagé en ligne. Pourquoi c'était important pour vous de raconter son histoire et de la partager avec un public plus large au Canada, à l'étranger et en particulier en dehors de la communauté franco-canadienne?
Ben merci pour ces bons mots au sujet du film. C'est un projet qui était très près de moi. D'abord, le désir de faire ce documentaire, c'était une curiosité, je dirais nostalgique, parce que moi, quand j'étais enfant, je regardais Claude Lafortune à la télévision. Et quand je l'ai rencontré plus tard dans la vie, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être plus que ce qu'on voyait à l'écran. Donc, j'ai voulu savoir qui était cet artiste derrière les personnages de papier qui créait et qui m'émerveillait quand j'étais enfant. Et donc, quand je lui ai demandé de faire ce documentaire, en 2018, il n'a pas accepté tout de suite parce qu'il disait « Mais moi, je ne suis pas Céline Dion, je ne suis pas très glamour. » J'ai dit « Claude, je pense qu'on peut trouver une façon de faire un documentaire à ton image. » Et rapidement, je me suis rendu compte que cet homme-là, qui avait 81 ans au moment où on a commencé le documentaire et le tournage, il n'était pas reconnu à sa juste valeur d'artiste et que même qu'il était en train de tomber dans l'oubli. Puis moi, je trouvais ça... Je voyais là une certaine, je sais pas, je peux dire injustice, mais en tout cas, moi, ça m'attristait. Et je me suis investie d'une mission de faire connaître Claude Lafortune parce que je trouvais que c'est quelqu'un qui faisait du bien. C'était quelqu'un qui était, dont les œuvres et dont les productions télévisuelles étaient empreintes de bonté. Et je trouve que dans notre société, on a besoin de bonté et de douceur. Et je trouvais que son message était important, donc, à partager. Alors, au moment où c'était en décembre 2020 et je devais décider où j'allais présenter le film et le Festival de films de Whistler, le programmateur Paul Graton m'appelle et il me dit « Moi, je viens pas du Québec, je connaissais pas Claude Lafortune, j'adore ce personnage et donc j'aimerais présenter le film à Whistler. » Et j'étais vraiment reconnaissante parce que, comme vous dites, ça permettait non seulement de faire parler de Claude Lafortune auprès d'un public qu'il connaissait, qui avait grandi avec lui à Montréal, au Québec, au Canada français aussi, mais d'ouvrir vers un public plus large. Et ce que je me suis rendu compte grâce à cette opportunité-là d'être à Whistler, c'est que même si qu'on connaisse ou pas Claude Lafortune, son histoire fait écho à l'histoire de plusieurs personnes. Donc, un peu comme vous disiez, Fred Rogers, Mr. Dress-Up, qu'on soit en Hongrie ou qu'on soit en France, il y a eu des animateurs jeunesse qui ont marqué l'enfance de tout le monde. Alors, à mon plus grand bonheur, l'histoire de Claude Lafortune, justement, est sortie de nos frontières et a été présentée récemment en Afrique, en Asie et en Europe. Alors, c'est vraiment, je dirais que la mission de faire connaître Claude Lafortune, c'est réussi, même si c'est moi qui le dis.
Ma félicitation, c'était vraiment un beau projet. Merci beaucoup à vous. Alors, votre plus récent long métrage, l'adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert, Dune, sur lequel vous avez travaillé à titre de productrice exécutive aux côtés de votre conjoint, le réalisateur québécois Denis Villeneuve, est un véritable accomplissement. Vous avez d'ailleurs publié un livre d'accompagnement, The Art and Soul of Dune. J'ai particulièrement apprécié la façon dont vous avez fait référence à Dune sur Instagram en disant à la blague que c'était le petit projet sur lequel je travaille depuis 2018. Au moment de cet enregistrement, Dune a déjà rapporté 300 millions de dollars au guichet international. Le film a reçu une ovation de 8 minutes lors de sa première mondiale au Festival international du film de Venise, avec des critiques exceptionnelles et des acteurs vedettes comme Timothée Chalamet, Zendaya et Oscar Isaac. Comment un projet de cette envergure prend-il vie et comment vit-il avec vous? En quoi ce projet vous a-t-il changé en tant qu'artiste?
C'est un projet, quand on résume la carrière du film jusqu'à présent, c'est quand même, c'est des chiffres impressionnants. Et c'est vrai que j'ai commencé à travailler sur ce film en 2018, mais Denis Villeneuve, qui justement a réalisé le film et avec qui je partage ma vie, a mentionné au journaliste en 2016 que le projet de sa vie, le rêve de sa vie, ce serait de réaliser Dune, un livre qu'il avait lu quand il était adolescent. Donc, à partir de ce moment-là, la nouvelle a eu un effet boule de neige parce qu'il y a un studio qui a su que Denis avait dit ça et qui l'a invité à une rencontre. Et ben, ensuite, comme on dit en anglais, « the rest is history », Denis a été embauché pour réaliser le film et on a passé, on est en 2021 maintenant, donc ça fait 5 ans que ce film habite et cette histoire, ce projet-là habite nos vies. Donc, je dirais que c'est une leçon de persévérance en tant qu'artiste, parce que non seulement il y avait toute la production de Dune, il faut comprendre que quand on fait un film de science-fiction comme celui-là, c'est qu'il n'y a aucun détail qui est laissé au hasard, parce que tout doit être inventé. L'histoire se déroule en 10191, donc un accessoire aussi banal qu'une poignée de porte ne ressemble pas à une poignée de porte de 2021. Alors, chaque élément doit être inventé. Alors, c'était un travail de précision, de s'assurer que la vision de Denis et que chacun de ces détails-là était porté à l'écran comme lui l'imaginait. Puis ensuite, comme vous avez dit, j'ai écrit le livre « The Art and Soul of Dune » qui a été très difficile à écrire parce que j'ai commencé l'écriture au moment où la pandémie de la COVID-19 commençait. Et il y a une partie de moi qui voulait tout abandonner. J'étais distraite, j'étais bouleversée comme tout le monde. Et j'arrêtais pas de dire à mon éditeur, mais non, mais il faut repousser, parce que il y a une partie de moi qui voulait pas s'investir. J'avais pas la concentration, mais j'avais pas le choix. Parce que même si le film, ultimement, a été poussé d'un an, parce que les salles de cinéma étaient fermées et tout ça, il fallait quand même respecter l'échéancier parce qu'on savait pas à l'époque comment les choses allaient évoluer. Et finalement, j'ai commencé à écrire le livre au moment où Claude Lafortune décédait. Alors, j'ai écrit ce livre-là à travers beaucoup de bouleversements de société, émotifs, personnels. Mais je suis fière aujourd'hui que le livre soit sorti parce qu'il a été terminé à temps dans les délais prévus. Il a pu être traduit dans 7 langues. Donc, vraiment, en rétrospective, je me rappelle de l'émotion, des difficultés, mais je me rends compte aussi que quand on persévère, ben, au final, il peut avoir un sentiment de satisfaction. Donc, c'est ça. Pour moi, j'ai écrit 5 livres jusqu'à présent, mais celui-là, ça aurait été le plus difficile. Mais peut-être celui dont je suis le plus fière parce que j'ai failli l'échapper et pas l'écrire.
Quel beau message de persévérance. Et je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui seront inspirées par votre parcours, par votre histoire. Et puis, on a toujours besoin de pousser, on a toujours besoin d'entendre les histoires des autres pour nous motiver. Et la vôtre est très motivante. Merci beaucoup.
Merci. Je pense que quand on voit des gens qui, justement, quand on parle de 300 millions de dollars au box-office, c'est tout a l'air facile, mais c'est pas tout facile. Donc, je pense qu'il faut raconter ces difficultés-là pour que, justement, on soit solidaire dans nos parcours.
Absolument. Alors, j'ai une autre question sur Dune que j'aimerais aborder sous un angle différent, celui de la technologie, de l'évolution et de la manière dont notre société s'engage dans les formes de divertissement. Vous avez partagé en ligne « A word of advice, see it in theaters on the biggest screen possible ». Denis Villeneuve a également exprimé l'importance de l'expérience cinématographique en salle. Il a été très franc à ce sujet et a été déçu que Warner Brothers n'ait pas attendu pour diffuser le film en streaming sur HBO Max. Pourriez-vous nous parler davantage de cet amour du cinéma et de l'importance de voir des films en salle avec un public?
Je pense que je parle beaucoup de mon enfance, mais parce que je pense que c'est quand même l'enfance nous donne du recul par rapport à l'existence humaine. Puis moi, si je repense au premier film que j'ai vu au cinéma, je sais pas si je peux dire c'est un grand chef-d'œuvre, c'est un film d'animation. J'avais 6 ans, mais je me souviens très clairement, à l'âge de 6 ans, d'être assis dans une salle et de regarder le film Bambi au grand écran et de vivre cette expérience un peu inusitée, quand c'est la première fois évidemment, mais ça a laissé sa trace. je me souviens pas de la première émission que j'ai regardé à la télévision, ça a pas le même impact, c'est dans notre quotidien, c'est plus routinier, mais il y a quelque chose de la cérémonie, du rituel, d'entrer dans la salle de cinéma, dans cette salle noire, les lumières s'éteignent, on éteint nos cellulaires, on laisse de côté toutes les distractions pour se laisser porter dans un état onirique, dans le fond, on s'abandonne à un rêve qui est pas le nôtre, mais un rêve, une histoire, puis je pense qu'on peut pas vivre ça justement de la même façon qu'en streaming. Évidemment, le streaming nous a tous et toutes sauvés à travers la pandémie. J'ai consommé de manière boulimique des séries, des films, mais il y a quelque chose de l'expérience qui se dit aussi, qui est aussi vrai par rapport à des spectacles musicaux. On peut écouter un album sur une plateforme de streaming ou sur vinyle, où on peut aller le vivre en salle avec d'autres gens, avec des humains sur la salle. Il y a quelque chose d'une chimie humaine qui s'opère dans un événement qu'on partage avec d'autres. Et je dirais que plus spécifiquement dans le cas de Dune et de la vision de Denis, c'est que le film a été conçu, réfléchi, filmé pour être vu sur le grand écran. Ce qui veut dire que tout est grandiose. Quand on s'assoit dans la salle, et c'est pour ça que je disais « see it in the biggest screen possible », c'est que c'est immersif. C'est tellement énorme qu'on a l'impression de nous-mêmes voyager dans le désert. Et donc, c'est aussi la musique de Hans Zimmer qui nous enveloppe. C'est le son qui a été conçu pour un son surround dans Dolby Atmos. Donc, je pense que pour moi, l'amour du cinéma, c'est ça. C'est l'expérience humaine au-delà de juste consommer du contenu.
Wow, merci beaucoup. Alors, nous avons une question pour vous aujourd'hui de la part de Kenya Jade Pinto, qui a obtenu un juris doctor du programme de Common Law à l'Université d'Ottawa. Elle est cinéaste, photographe, documentariste et avocate indo-kenyane canadienne basée à Toronto. Cinéaste en résidence au Refugee Law Lab de l'Université York, elle travaille à la réalisation de son premier long-métrage documentaire. Elle nous rejoint aujourd'hui depuis la Grèce.
Alors, merci beaucoup. Et bonjour, Tania. Il n'est pas facile de naviguer simultanément entre le récit et la non-fiction. J'aimerais en savoir plus sur les compétences que vous avez réussi à apporter de votre carrière de journaliste à des projets tels qu'Arrival, l'un de mes films préférés. Et même question inversée. Quelles compétences apportez-vous de votre pratique de la narration à la réalisation de documentaires? Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ma question et félicitations pour tout votre travail et votre succès.
Merci beaucoup, Kenya Jade. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Puis, c'est une question intéressante entre les films de fiction et le documentaire. Moi, ce qui m'a surpris, c'est à quel point il y a des liens à faire entre les deux. Parce que dans les deux cas, on raconte des histoires. Et donc, je dirais que d'abord, de mon parcours de journaliste à documentariste, j'avais une rigueur de, et une éthique pour poser des questions, pour aller chercher dans la réalité des éléments qui vont émouvoir. Parce qu'autant en télévision, journalisme qu'en documentaire, on cherche à raconter l'histoire de quelqu'un qui va susciter l'intérêt, la curiosité, des questions d'un public. Donc, je pense que cette curiosité-là a été très riche pour moi. Et cette curiosité-là permet aussi d'aller creuser au-delà des questions superficielles. Et c'est ce que j'aime faire avec le documentaire, c'est d'approfondir, c'est de prendre le temps. Parce que quand j'étais à Radio-Canada, je faisais des reportages de 2 minutes en une journée. Et mon dernier documentaire, je l'ai fait sur 2 ans et il dure 78 minutes. Donc, c'est vraiment, je dirais, une extension de ce que je faisais. C'est ça, d'approfondissement, mais aussi de... Le temps nous permet de réfléchir, parce qu'on n'a pas toujours le temps quand on a un échéancier à tous les jours, à 18 heures, aux nouvelles. Maintenant, pour la question inverse que la fiction a amené au documentaire, en fait, c'est que les deux communiquent, parce que même sur le plateau de Dune, je suis à côté de Denis, qui est réalisateur à chaque jour de tournage, puis je regarde l'image, puis s'il y a quelque chose, je me dis, mais... C'est pas réaliste ou il y a quelque chose qui cloche ou je vais le dire parce que j'ai l'habitude de regarder la réalité, des images qui racontent, qui sont tirées de la réalité. Alors, j'ai vraiment, je pense, un regard critique qui permet de nourrir ce qu'on fait en fiction. Mais la fiction, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, surtout avec Denis Villeneuve, je dirais, c'est que c'est quelqu'un qui parle beaucoup à travers la poésie des images. Puis, comme journaliste ou documentariste, j'avais un peu l'instinct de dire les choses, d'expliquer les choses. Puis en cinéma, la philosophie de Denis, je ne sais pas si ça s'applique à tous les réalisateurs et réalisatrices, mais c'est de laisser vivre, que ce soit un silence, de laisser vivre une image sans mettre de mots, pour qu'en tant que public, on reçoive cette image-là puis qu'on essaie de l'interpréter. Pour, je ne veux pas dire faire travailler le public, mais de le laisser tirer ses propres conclusions plutôt que d'essayer de toujours essayer de lui dire quoi penser. Donc, moi, c'est ça qui nourrit le parcours, puis d'aller chercher l'émotion. Arrival, c'est un de mes films préférés aussi, même si j'ai travaillé dessus. Mais il y a quelque chose dans cette émotion profonde-là qui nous prend un peu par surprise à la fin du film. Je l'ai vu des dizaines de fois. À chaque fois, je pleure. C'est immanquable. Mais c'est une émotion profonde. C'est pas juste de la tristesse. C'est quelque chose qui rejoint l'humanité en moi. Puis je pense que c'est ça que j'essaie aussi de faire maintenant avec les documentaires. Je pense que le documentaire a cette force-là de raconter des histoires qui peuvent aussi nous émouvoir.
Merci beaucoup, Tania, d'avoir répondu à la question de Kenya Jade. J'aimerais terminer la conversation d'aujourd'hui par une petite question que nous poserons à tous nos invités cette saison. Qu'est-ce qui vous divertit en ce moment?
Ouais, ça, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses qui me divertissent. Je commence par quoi? On dirait que je manque de temps pour consommer tout ce que je veux voir. Il y a des séries en ce moment, c'est Squid Game, j'ai commencé à regarder ça. J'ai regardé Laurence d'Arabie au cinéma à Toronto il y a quelques semaines, ça m'a complètement soufflé. C'est un film de 1962 qui est un chef-d'œuvre, qui a d'ailleurs inspiré Denis dans la création de Dune, parce que ça se passe dans le désert et ça porte un regard très critique sur le colonialisme. Et j'ai aussi le privilège de côtoyer des amis, des collègues, des connaissances qui écrivent des livres. Et j'ai une bonne amie à moi qui a écrit, Émilie Perrault, qui a écrit « Service essentiel », qui est un livre qui, justement, s'intéresse à la santé culturelle. C'est-à-dire, on parle souvent de la santé mentale, la santé physique, mais elle a dit « oui, mais et si on pensait à notre santé culturelle, est-ce qu'on ne devrait pas se dire « je vais lire » un livre par 30 minutes par jour, ou est-ce que je devrais pas aller voir une pièce par mois? Ou... Donc, je trouve que c'est des questions qui sont, en fait, dans son livre, qui sont basées sur la science, à savoir les avantages prouvés de la culture et du divertissement sur nous. Donc, c'est un livre que je trouve très intéressant. Et je tiens à dire que j'ai un ancien professeur de l'Université d'Ottawa, Denis Bachand, qui a écrit un livre sur la nostalgie que je lis aussi en ce moment, que je trouve très intéressant parce que ça parle de nostalgie. Et j'ai fait un documentaire sur Claude Lafortune qui, forcément, est venu titiller ma propre nostalgie de ce que je regardais quand j'étais enfant à la télévision. Alors, je dirais qu'il y a toutes ces choses, je pourrais en nommer bien d'autres, mais ce sont les œuvres essentielles en ce moment dans ma vie.
Merci beaucoup pour toutes ces recommandations et je suis sûre que moi-même, d'ailleurs, je vais aller chercher quelques des livres que vous avez mentionnés et puis regarder peut-être Squid Game parce que je n'ai pas encore regardé. Merci vraiment, Tania. Mais pourriez-vous dire à nos auditrices et auditeurs où ils peuvent vous trouver en ligne?
Oui, absolument. Ben, merci d'abord pour cet entretien. Ça a été vraiment un plaisir de vous rencontrer, de rencontrer Kenya Jade, puis de pouvoir me sentir encore en connexion avec l'Université d'Ottawa, qui a été très important dans mon cheminement, dans mon parcours. Donc, où on peut me trouver? Ben, je suis sur Twitter à Tania Lapointe, avec un Y, Tania Lapointe, en un mot. Instagram, c'est la même chose. Et je suis à mes balbutiements sur TikTok. Si vous êtes sur TikTok, suivez-moi, écrivez-moi. J'essaie de trouver une façon de communiquer avec les gens et je ne suis pas du tout experte. Alors, s'il y a des gens qui veulent me suivre sur TikTok, c'est Tania Lapointe d'une. Voilà.
Merci beaucoup, Tania, de nous avoir rejoints sur U au courant. C'était un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui et de découvrir votre parcours dans l'industrie du divertissement. Merci infiniment.
Merci, au plaisir.
U au courant vous est présenté par l'équipe des relations avec les diplômés de l'Université d'Ottawa. Il est produit par Ria Laobe avec un thème musical par le diplômé Idris Lowell. Cet épisode a été enregistré avec le soutien de Pop-Up Podcasting à Ottawa, en Ontario. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Pour la transcription de cet épisode en anglais et en français, ou pour en savoir plus sur UO Courant, veuillez consulter la description de cet épisode.